Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Mardoché Kouassi. Vous suivez la grande édition de la mi-journée sur Radio de la Paix. Madame, Monsieur, voici les dominantes de l'actualité. 11 individus ont été interpellés suite aux violences survenues le week-end dernier dans la commune de Yopougon, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le PPACI, lui, dénonce l'arrestation de ces militants et réclame leur libération immédiate. Hors de chez nous au Cameroun, le Conseil constitutionnel se penche ce lundi sur 35 recours sur les candidatures à la présidentielle du 12 octobre prochain. En sport, le Nigeria a obtenu hier dimanche son 5e titre consécutif en afro-basket dames en battant le Mali 78-64. Et puis, le dossier d'actualité de ce jour, réalisé par Junior Cardin, nous permettra de comprendre le mécanisme de récupération des points retirés aux détenteurs de permis de conduire. Avant l'invité de la rédaction, Kouassi Niamie, Jean-Michel Armand, administrateur de l'Organisation nationale des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire, qui nous parlera au micro de Jean-Claude Mabéa de la mise en place de l'organisation interprofessionnel agricole régissant le secteur café-cacao. Voilà pour le sommaire. Radio de l'Appel aux 12 heures. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, plus d'une dizaine d'individus ont été interpellés après avoir vandalisé un véhicule de police et un autobus de la Sotra dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août dernier dans la commune de Yopougon. C'est le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui l'a indiqué dans une déclaration hier dimanche. Le patron du département de la Sécurité a également ajouté que toutes les personnes mises en cause dans ces incidents seront remises à la justice pour nécessité d'en enquête. Écoutons un extrait de sa déclaration.
Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août, aux environs de 23 heures, la commune de Yopougon a connu des moments de violence graves ayant entraîné l'incendie d'un autobus de la Sotra et la destruction d'un véhicule de police. Les forces de police et de gendarmerie, bénéficiant de renseignements crédibles et concordants, étaient prêtes et ont réagi promptement, ce qui a permis d'appréhender 11 individus à ce jour. En raison de la gravité des faits, dont l'objectif de leurs auteurs est de créer la psychose au sein des populations quelques mois avant les élections présidentielles, c'est le lieu d'indiquer aux Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire que les forces de l'ordre ivoiriennes sont aujourd'hui organisées et bien formées. Elles disposent en outre de moyens tant humains que matériels pour anticiper les événements ou les gérer dans le respect des droits de l'homme. Toutes les personnes mises en cause seront donc remises dans les mains de la justice, comme cela s'est toujours fait depuis 2011. Enfin, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité tient à mettre en garde les instigateurs et les complices de ces violences, que force restera à la loi.
À l'instant, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, sur les incidents survenus à Yopougon. Sur les interpellations intervenues justement après ces violences, le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce pour sa part l'arrestation de ces militants et réclame leur libération immédiate. Le président exécutif de ce parti, Sébastien Dano Djedje, était en conférence de presse hier dimanche après-midi.
Une vague de répression s'abat illégalement sur nos cadres et militants. De nuit, les camarades sont enlevés et amenés vers des lieux inconnus. Le PPACI dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques anticonstitutionnelles. Nous rappelons qu'en République, la présomption d'innocence est un droit sacré, tout comme la protection contre des arrestations arbitraires. Les libertés d'expression, d'association, des réunions pacifiques et de circulation ne sauraient être criminalisés. Si le service de sécurité dispose d'éléments à reprocher à nos camarades, ils doivent les convoquer dans le strict respect de la loi et non les enlever dans l'ombre de la nuit. Ces arrestations arbitraires portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des citoyens, mais aussi à la décrispation politique et à la cohésion nationale que tout le peuple ivoirien appelle de ses voeux. Le PPACI exprime sa solidarité totale envers les militants ainsi victimes et réclame leur libération immédiate. Nous alertons par ailleurs sur la montée inquiétante de la violation des libertés constitutionnelles, en particulier à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous mettons en garde contre toute instrumentalisation de la justice et de la force publique à des fins politiques.
Sébastien Dano-Djegé, président exécutif du PPACI. Tous ces événements et prises de position à quelques mois de la présidentielle ne rassurent pas la plateforme des ONG qui milite pour des élections apaisées et inclusives en Côte d'Ivoire. Elle a invité à cet effet le numéro 1 ivoirien à réintégrer les leaders politiques de l'opposition sur la liste électorale pour le scrutin du 25 octobre prochain. Appel lancé lors d'une conférence de presse le vendredi 1er août dernier dans la commune de Cocody. Dit témoin pour Radio de la Paix, Ismaël Ango.
Face à la presse, le président de la plateforme Place Côte d'Ivoire, Vianney Koffi, interpelle le président Alassane Ouattara. Il lui demande d'utiliser l'article 48 de la Constitution pour réinscrire des opposants politiques sur la liste électorale en vue d'élections apaisées.
Aujourd'hui, c'est toujours plaidé pour que son Excellence le président Alassane Ouattara mette le nom de ses frères qui ne sont pas encore sur la liste. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, Tidiane Thiam, président du PDCI, Blé Goudé, le président de COGEP. L'article 48 lui permet de mettre ses frères sur la liste.
Vianney Koffi a également invité le parti au pouvoir, le RHDP, et l'opposition à tenir des discours d'unité et de courtoisie.
On est à 2 mois des élections. Nous voulions vraiment que de part et d'autre, il y ait un langage de paix, un langage d'amour, ce qui est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, ça peut se faire.
Il a profité de l'occasion pour encourager les jeunes à rejeter toute forme de manipulation ou de violence. La plateforme Place Côte d'Ivoire a annoncé la poursuite de sa tournée de sensibilisation à travers le pays. Objectif, promouvoir un scrutin électoral apaisé et inclusif sur l'ensemble du territoire national.
C'est aussi l'actualité. L'an 2 du décès de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédier a réuni plusieurs personnalités religieuses, politiques, administratives et coutumières lors d'une messe hommage à l'ancien président du PDCI-RDA. C'était le 1er août dernier à la chapelle Sainte-Anne de Peupressou, son village natal. Les souvenirs de l'illustre disparu et la situation actuelle du pays ont été évoqués à cette occasion. Les échos de l'événement avec François Kra.
Cette célébration eucharistique, qui a été ponctuée par des chants, des prières et recueillements, était une occasion pour Mgr Jacques Asambo Aïwa pour rappeler le message de dialogue et de paix prôné par le président Henri Konan Bédier à la classe politique ivoirienne.
À mesure qu'approche l'échéance de l'élection présidentielle, nous avons tous peur. Nous savons tous que la paix se construit dans un environnement de justice et de dialogue sincère, que cette sagesse de nos ancêtres visite tous les acteurs de la scène politique ivoirienne en ce moment précis.
Le ministre d'État, Jeannot Ahoussou, y était au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.
Le président Alassane Ouattara est venu saluer sa mémoire et lui dire qu'il continue l'œuvre qu'ils ont commencé ensemble pour bâtir une Côte d'Ivoire paisible.
Pour sa part, l'ancien ministre, Amane Nguessan, a transmis le message du président du PPACI, Laurent Gbagbo, à la famille politique du défunt en ces termes.
Autant nous le regrettons, nous souhaitons que son parti aujourd'hui puisse agir à la hauteur de ce qu'a été le président Bédier.
Noël Akossi Benjo, représentant le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, n'est pas resté sans voix.
Que nous puissions nous tolérer. La paix n'est pas une absence de guerre.
À l'initiative du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, une stèle a été érigée en hommage à son prédécesseur dans son village natal. François Kra, des retours de Peupressou, Radio de la Paix.
On met le cap à présent sur la ville de Boaké qui accueille le 7 août prochain les festivités officielles de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle saluée par les populations au micro de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Bekin.
Quand le président de la République choisit de venir célébrer la grande fête de la Côte d'Ivoire à Boaké, dans ton département d'origine, tu ne peux que te sentir rempli d'émotion, de fierté et surtout de reconnaissance au président de la République pour déjà tout ce qu'il a fait pour booster le développement de Boaké et surtout de toute la région du Bekin.
Vraiment, comme tout Boaké, c'est une joie pour moi. L'année où on a fait l'indépendance à Boaké, je suis née la même année, ça veut dire en 64. Vous voyez ma joie, ma fierté de recevoir cette indépendance-là maintenant. Au-delà de la fête, il y a beaucoup de projets qui sont en train de mettre en œuvre. Vous le voyez pour la ville de Boaké, tout le monde est en train de constater l'embellissement et tous les projets qui sont en train d'être faits, le bitumage des voies.
Les mots nous manquent, on dit merci au président de la République. J'ai choisi Boaké et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'empressement que nous l'attendons et nous sommes très heureux de cette nouvelle. Et comme on dit chez nous ici, au mot, et au quoi.
C'est avec beaucoup de joie que les jeunes de Boaké donc accueillent l'indépendance qui aura lieu ici cette année à Boaké. En ce sens que cela fait 64 ans après qu'il a plu au chef de l'État de venir ici honorer cette la nation ivoirienne, mais honorer la ville de Boaké. Et notre responsabilité en tant que jeune est engagée.
Nous allons abriter le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tout Boaké a jubilé, un challenge, donc tout le monde est content de recevoir toute la Côte d'Ivoire.
On revient à Abidjan pour parler de salubrité avec la Semaine nationale de la propreté, dont le lancement a eu lieu à Akouedo Village le vendredi 1er août dernier, au cœur du nouveau parc urbain aménagé sur le site de l'ancienne décharge. Une cérémonie symbolique marquée par des opérations de salubrité et la remise d'une ambulance au centre de santé du village et d'équipements de salubrité à la chefferie. Présidée par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, cette édition 2025 de la Semaine nationale de la propreté place l'engagement communautaire au centre de l'action publique pour une Côte d'Ivoire plus propre. Le reportage est signé Ghislain Koulibaly.
Je suis
C'est par ces mots que la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto exprime son attachement à Akouedo, ce village ébrié qu'il a vu naître.
Ma famille était l'ancien camp. C'est là que jeune couple, ma mère,
en 2011, alors ministre de la Salubrité, elle recevait cette mission du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce rêve prend forme avec le parc urbain d'Akouedo qui ouvrira ses portes très bientôt.
Il nous appartient de faire vivre ce magnifique parc urbain.
Un message adressé aux habitants et les jeunes du village voient déjà un lieu de bien-être, mais aussi un vivier d'emplois verts.
Je vois en cela déjà l'insertion professionnelle. Je vois le loisir, et ça va nous permettre de nous détendre.
C'est ici, au cœur de ce nouveau parc, qu'a été lancée la Semaine nationale de la propreté avec un appel fort à l'adoption de comportements éco-citoyens. Boaké Fofana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité.
Aujourd'hui, nos caniveaux sont pleins. On ne peut pas être la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui en restant sale. Il faut que la lutte pour la propreté fasse partie de ce qui fait de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire, un pays qui fait envie.
Le ministre Boaké Fofana insiste. Désormais, les actes d'incivisme en matière d'hygiène et d'assainissement seront sanctionnés par la loi.
Si vos eaux usées, vous les déversez dans la rue, nous avons une brigade qu'on est en train de mettre en place qui va être installée dans l'ensemble du territoire pour avoir des peines de prison.
Une vaste opération de salubrité se tiendra à Boaké, ville hôte des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance.
Notons que la Semaine nationale de propreté se tient jusqu'au 6 août prochain. Hors de chez nous, le Cameroun se prépare pour sa prochaine présidentielle, prévue le 12 octobre prochain, avec le Conseil constitutionnel qui se penche ce lundi sur 35 recours en rapport avec des candidatures. Parmi ces recours, celui du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie pour le compte de Maurice Kamto, présenté comme le principal opposant du pouvoir. Un mot de sport dans ce 12 heures avec le Nigeria qui a consolidé sa domination sur le basketball féminin africain en remportant son 7e titre, le 5e consécutif. En finale, hier dimanche 3 août, au Palais des Sports de Trècheville, les Nigérianes sont venues à bout d'une équipe malienne accrocheuse sur un score de 78-64. Didier Blé.
Un score qui vient certifier une dynastie sans précédent sur le continent. Le Nigeria a battu un Mali coriace 78-64, devenant ainsi la première équipe à remporter le tournoi 5 fois consécutivement. Prise à la gorge en début de rencontre par l'intensité malienne, l'équipe de la coach Rena Wakama s'est ressaisie au deuxième carton, 41-41. Emi Okonkwo et Essien Kalou vont survoler la partie, 19 points pour l'une et 20 points pour l'autre, et finalement l'emporter 78-64. Emi Okonkwo du Nigeria a été élu meilleur joueuse du tournoi, MVP, et la grande sensation du jour demeure la victoire du Soudan du Sud contre le Sénégal, 66-65, s'adjugeant ainsi la médaille de bronze. Le top 5 du tournoi est composé de la meneuse sénégalaise Cyril Dillard, Delicia Washington, la joueuse du Sud-Soudan, 109 points inscrits, Jen Assindé de l'Ouganda, Ami Okonkwo du Nigeria et Sika Kone du Mali. La Côte d'Ivoire, elle, termine 7e de son Afro-Basket.
On en vient à présent à notre dossier d'actualité qui nous amène à l'Office de sécurité routière, OSER. Objectif, comprendre le mécanisme de récupération des points retirés aux détenteurs de permis de conduire. Une immersion de Junior Cardin à l'occasion de l'ouverture officielle du centre dédié à cette procédure.
À notre arrivée à l'Office de sécurité routière, c'est le sous-directeur de la formation Silué Surtien Carvalho qui nous reçoit.
Donc il s'agit pour les usagers qui ont perdu des points et même ceux qui ont perdu totalement leurs points de venir récupérer ces points à l'Office de sécurité routière après 2 jours de formation. À l'effet d'éviter que leur permis ne soit invalidé dans une période de 90 jours.
Une fois cette mise au point faite, notre immersion débute. Première étape, le passage chez l'opticien. Avant cela, l'usager doit se munir de son relevé de solde de points obtenu à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Sur place, un apprenant est en pleine évaluation visuelle, ce qui nous permet d'observer concrètement le processus.
9, 4, 5, 2, 7.
On est passé à l'acuité visuelle. Mais lui, dans son cas, déjà, tout est bon. Donc, je vais mettre les acuités et je vais mettre OK sur le papier pour qu'il puisse passer à l'autre étape. Je suis M. Goré, opticien lunetier.
Deuxième escale, le cabinet médical. Le médecin référent, Dr Guy Fidel, effectue les contrôles de santé requis.
Pourquoi vous êtes là?
Bon, je suis là parce qu'ils ont retiré tous mes points.
Vous avez fait des excès de vitesse. Quand l'usager arrive, nous regardons la démarche de l'usager pour savoir s'il a des problèmes locomoteurs. Faisons un entretien pour essayer d'évaluer son état psychologique et mental. Donc après, nous délivrons le certificat de récupération du point. Mais si après la visite médicale, on se rend compte que le client a un problème médical qui le rend inapte à la conduite, notamment les troubles psychiatriques, des crises d'épilepsie récurrentes, si on les décèle, on met l'inaptitude.
Nous sommes ensuite dirigés vers la salle de cours. Ce jour-là, le formateur Sende Dosso dispense le module sur les comportements coopératifs au volant.
Il s'agit de tenir compte les autres usagers de la route et aussi de participer et contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. L'usager va comprendre s'il est automobiliste. À côté de lui, nous avons aussi des cyclistes, des piétons et d'autres usagers.
Parmi les apprenants présents, le sénateur Ogué Tchakoré.
Oui, c'est pour récupérer des points que j'ai perdus parce que j'ai reçu une notification. Vous savez que quand vous faites le trajet à Abidjan-Yamoussoukro en tant que sénateur, tel que vous avez votre nom sur le véhicule, même si ce n'est pas vous qui conduisez, automatiquement, c'est vous qui êtes impacté. Et donc, j'ai trouvé que c'était important d'abord de chercher à récupérer, ensuite de faire la formation. Après, moi, mon conducteur vient prendre le relais.
Comme lui, ce sont près de 50 000 conducteurs ayant perdu des points sur leur permis qui sont concernés. Ils sont désormais attendus dans ce tout nouveau centre de récupération mise en place par l'OSER pour régulariser leur situation.
C'est Junior Cardin qui signait là le dossier d'actualité relatif à la récupération des points retirés aux détenteurs de permis de conduire. L'invité de la rédaction de ce jour est le président de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles. Au micro de Jean-Claude Mabéa, Kwasi Nyamien, Jean-Michel Arnaud, administrateur de l'Organisation nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, qui a été officiellement sélectionné par le comité d'organisation du Conseil café cacao pour gérer l'organisation interprofessionnelle agricole régissant le secteur café cacao, revient sur les critères de désignation et les missions qui lui sont assignées. Signé.
Monsieur Kwasi Nyamien, Jean-Michel, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Une mission d'audit menée par un cabinet indépendant du 10 au 21 juin 2025 dans les 13 délégations régionales du Conseil Café Cacao a été supervisée par le comité technique de l'OIA, l'Organisation interprofessionnelle agricole Café Cacao. L'Organisation nationale des producteurs du café cacao de Côte d'Ivoire, en abrégé ONPCCCI, a été reconnue comme légitime pour intégrer le collège des producteurs au sein de la future organisation interprofessionnelle agricole. Qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de votre organisation, l'ONPCCCI?
Voyez-vous, il y a un an de cela, le cabinet Jadès, sous la supervision du comité, a effectué une mission de vérification des données auprès de toutes les organisations professionnelles agricoles au nombre de 80. Et aucune organisation n'a pu rassembler jusqu'à 2% même des producteurs de café cacao. Donc, toutes ces organisations étaient focuses à être éligibles à l'interprofession café cacao. Et l'ONPCCI, à travers son leader, M. Issiaka Diakité, nous a réunis, nous, en tant qu'organisation professionnelle agricole, pour qu'on puisse mettre en place une organisation forte appelée ONPCCI, qui devrait regrouper toutes les tendances et puis regrouper le maximum des producteurs. Et c'est ce qui a été fait. L'ONPCCI a été mis en place et l'ONPCCI a lancé un programme d'adhésion dans les 13 délégations du Conseil Café Cacao. Et au terme de notre opération d'adhésion, nous avons rassemblé 63% des producteurs sur 1 180 producteurs recensés par le Conseil Café Cacao.
Et donc, quels sont les critères qui ont été retenus pour qu'on puisse vous désigner en tant qu'organisation qui doit intégrer le Collège des producteurs au sein de la future OIA, l'Organisation interprofessionnelle agricole?
Aujourd'hui, l'ONPCCI région, 63% des producteurs. Donc, l'ONPCCI a la majorité des producteurs café-cacao.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette désignation pour intégrer le Collège des producteurs au sein de la future organisation interprofessionnelle agricole?
Vous savez, depuis 2012, quand il y a eu la nouvelle réforme, il a été annoncé par les tests la mise en place de l'organisation professionnelle agricole qui devait être l'organisation officielle de tous les producteurs. Et par voie de conséquence, les producteurs devaient intégrer les instances de gestion et de gouvernance de la filière café-cacao. Donc, nous venons de loin, depuis 2011 jusqu'à maintenant, que nous mettons en place, par la volonté du chef de l'État, du Conseil café-cacao, du ministère de l'Agriculture, nous mettons en place cet instrument qui est l'expression officielle des producteurs de café cacao. Donc pour nous, l'OIA va être un instrument au service des producteurs qui va mettre en œuvre la politique agricole du gouvernement, aussi parler au nom des producteurs, défendre leurs intérêts pour que la filière soit une filière à gestion collégiale.
Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement dans le fonctionnement de la filière?
Non mais vous savez que désormais, les producteurs auront leur mot à dire. Parce que nous avons décrit ça depuis longtemps. Nous étions des parents pauvres de la filière. Les producteurs n'avaient pas voix au chapitre. Ils ne pouvaient pas influencer certaines décisions. On décidait à la place des producteurs, mais comme changement, désormais, personne ne décidera à la place des producteurs. C'est les producteurs eux-mêmes qui prendront en charge leur destin. Ils diront que voici ce qui est bon pour nous, voici ce qui n'est pas bon. Donc voici un peu ça. Contrairement aux années passées où tout était décidé et ça nous tombait dessus sans que nous apportons même ne serait-ce que notre propre idée. Voilà le changement notable que nous observons. Désormais, les producteurs vont participer au débat, pour enrichir le débat sur la filière café-cacao.
Comment l'ONPCCI va fonctionner?
Bon, à ma connaissance, l'ONPCCI va fonctionner sur un prélèvement, le prélèvement au kilogramme. On aura un budget de fonctionnement d'équipement également. Donc, ça sera défini en accord avec le régulateur qui est le Conseil Café-Cacao. Voilà un peu comment les choses vont se mettre en place petit à petit. On a notre président. Également, nous serons représentés dans la 13 délégations. On aura des bureaux régionaux, des délégués départementaux qui vont fonctionner, qui seront le relais de l'aspiration de l'équipe dirigeante de l'OIA.
Ma dernière question, c'est de savoir quelle sera la mission principale de votre organisation au sein de la filière.
La mission principale de notre organisation au sein de la filière, c'est de rassurer les producteurs pour leur dire désormais, ils ont un instrument de développement qui est l'OIA. Et nous attendons leur participation, leur pleine participation pour enrichir le débat sur l'agriculture, sur la filière café-cacao. Deuxièmement, s'ils ont éventuellement des préoccupations, au lieu de s'étaler dans les journaux, aller dans les tribunaux, désormais, ils ont une structure de référence qui est l'OIA et ils pourront porter leurs préoccupations au président et le président sera fort de pouvoir traduire cela en être pratique en saisissant les autorités compétentes.
Monsieur Kwasi Nyamien, Jean-Michel, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.
À vous le merci.
Cet entretien réalisé par Jean-Claude Mabéa met fin à ce journal, mais on rappelle l'essentiel. 11 individus ont été interpellés suite aux violences survenues le week-end dernier dans la commune de Yopougon. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le PPACI, lui, dénonce l'arrestation de ces militants et réclame leur libération immédiate. Hors de chez nous, au Cameroun, le Conseil constitutionnel se penche ce lundi sur 35 recours sur des candidatures à la présidentielle prévues le 12 octobre prochain. Et puis en sport, le Nigeria a obtenu hier dimanche son 5e titre consécutif en Afro-Basket Dames en battant le Mali 78-64. Prochain rendez-vous de l'information 15h, mais tout de suite la revue de presse de Mel Emmanuel.
Bonjour. Les événements de vendredi dernier dans la commune de Yopougon ont suscité une vague de réactions dans la presse aujourd'hui. Pour l'Inter, le ton est donné. Dans son billet, l'Inter dit